Lettre 190 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Livry, mardi, en attendant, mercredi, 4 août 1677. Je vins ici samedi matin, comme je vous l'avais mandé. La comédie du vendredi nous réjouit beaucoup. Nous trouvâmes que c'était la représentation de tout le monde. Chacun a ses visions plus ou moins marquées. Une des miennes, présentement, c'est de ne me point encore accoutumer à cette jolie abbaye, de l'admirer tous les jours comme si je ne l'avais jamais vue, et de trouver que vous m'êtes bien obligé de la quitter pour aller à Vichy. Ce sont de ces obligations que je reproche au bon abbé quand j'ai écrit 2 ou 3 lettres en Bretagne pour mes affaires. Sur le même ton, vous êtes bien ingrate de dire que vous voyez toujours cet écritoire en l'air et que j'écris trop. Vous ne me parlez point de votre santé. C'est pourtant un petit article que je ne trouve pas à négliger. Tant que vous serez maigre, vous ne serez point guéri. Et soit par le sang échauffé et subtilisé, soit par la poitrine, vous devez toujours craindre le dessèchement. Je souhaite donc qu'on ait un peu de peine à vous lasser, pourvu que la crainte d'engraisser ne vous jette pas dans la pénitence comme l'année dernière. Car il faut songer à tout. Mais cette crainte ne peut pas entrer 2 fois dans une tête raisonnable. Au reste, vous avez des lunettes meilleures que celles de l'abbé. Vous voyez assurément tout le manège que je fais quand j'attends vos lettres. Je tourne autour du petit pont, je sors de l'humeur de ma fille et je regarde par l'humeur de ma mère si la bosse ne revient point. Et puis je remonte et je reviens mettre mon nez au bout de l'allée qui donne sur le petit pont. Et à force de faire ce chemin, je vois venir cette chère lettre. Je la reçois et la lis avec tous les sentiments que vous devinez, car vous avez des lunettes pour tout. J'attends ce soir la seconde et j'y ferai réponse demain. Le bon abbé est étonné que les voyages d'Aix et de Marseille et le paiement des gardes vous aient jeté dans une si excessive dépense. Vous disiez il y a 15 jours que vous étiez bien. C'est que vous aviez compté sans votre hôte, qui fait toujours ses parties bien hautes, sans qu'on en puisse rien rabattre. Vous dites que votre château est une grande ressource, j'en suis d'accord. Mais j'aimerais mieux y demeurer par choix que d'y être forcé par la nécessité. Vous savez ce que dit l'abbé des Fiat, il a épousé sa maîtresse. Il aimait Véré quand il n'était pas obligé d'y demeurer. Il ne peut plus y durer parce qu'il n'ose en sortir. Enfin, ma fille, je vous conseille de suivre toutes vos bonnes résolutions de règles et d'économies. Cela ne rajuste pas une maison, mais cela rend la vie moins sèche et moins ennuyeuse. Mercredi matin. Je reçois votre lettre du 28 juillet. Il me semble que vous étiez gaie, votre gaieté marque de la santé. Voilà ma très chère comme je tire ma conséquence. Vous me priez d'aller à Grignan, vous me parlez de vos melons, de vos figues, de vos muscats. Ah, j'en mangerai bien! Mais Dieu ne veut pas que je fasse cette année un si agréable voyage. Vous ne ferez pas non plus celui de Vichy. Vous dites, ma chère enfant, que votre amitié n'est pas trop visible en certains endroits. La mienne ne l'est pas trop aussi. Il faut nous faire crédit l'une à l'autre. Je vois fort bien la vôtre et j'en suis contente. Soyez de même pour moi. Ce sont de ces choses que l'on croit parce qu'elles sont vraies et de ces vérités qui s'établissent parce qu'elles sont des vérités. J'avais ouï parler confusément de cette lettre de M. de Montausier. Je trouve, comme vous, son procédé digne de lui. Vous savez à quel point il me paraît orné de toutes sortes de vertus. On avait cherché à le tromper, on avait corrompu son langage. On s'est enfin redressé, et lui aussi, il l'avoue. C'est une sincérité et une honnêteté de l'ancienne chevalerie. Voilà qui est donc fait, ma fille. Vous êtes assurée d'avoir ces jeunes demoiselles. Vous êtes une si grande quantité de bonne tête qu'il ne faut pas douter que vous ne preniez le meilleur parti et le plus conforme à vos intérêts. Peut-être que les miens s'y rencontreront. J'en profiterai avec bien du plaisir. Je sens la joie du bel abbé de se voir dans le château de ses pères qui ne fait que devenir tous les jours plus beau et plus ajusté. Monsieur de la Garde, dont je parle volontiers parce que je l'aime, et cause encore de ses copies dont je suis vraiment au désespoir. Je vous assure que sans lui, j'eusse continué ma brutalité. J'avais résisté à la faveur, j'ai succombé à l'amitié. Si je n'avais que 20 ans, je ne lui découvrirais pas ses faiblesses. Je me suis donc trouvé en presse, tout le monde criant contre moi. « Elle est folle, disait-on, elle est jalouse. Monsieur de Saint-Géran n'aime-t-il point sa femme ?» Il a permis qu'on prît des copies de son portrait. Eh bien, on en aura un original, il ne me sera pas refusé. Cela est plaisant qu'elle croie qu'il n'y a qu'elle qui doive avoir le portrait de sa fille. Je l'aurai plus beau que le sien. Je ne me serais guère soucié de toute cette clameur si M. de Lagarne ne s'en était point mêlé. Mais voilà la première peinte. Il n'y a que celle-là de chair, c'est donc de l'aversion qu'on a pour les autres. Oh bien, faites donc que le diantre vous emporte. Le voilà, faites-en tout ce que vous voudrez. Vous ririez bien si vous savez tout le chagrin que cela me donne et combien j'en ai sué. Vous qui n'aimez pas les portraits, j'ai compris que vous seriez la première à me ridiculiser. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que cet original ne me paraît plus entier ni précieux. Cela me blesse le cœur. Allons, allons, il faut être mortifié sur toute chose. Voilà qui est fait, n'en parlons plus. Cet article est long et assez inutile. Mais je n'en ai pas été la maîtresse, non plus que de mon pauvre portrait.